et bienvenue sur Radio G, il est 19h. Vous êtes bien sur l'émission Droit Devant, une émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G, 101.5 FM, un jeudi sur deux. Et pour commencer, j'aimerais vous dire bonjour Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Et bonjour à Pierre qui nous a rejoint aujourd'hui pour la technique.
Bonjour.
Aujourd'hui, voilà, et je voulais juste dire, merci Pierre, joyeux anniversaire à Radio G, parce que vous savez que la semaine dernière, on a fêté les 40 ans à notre radio associative préférée. C'était un moment formidable. Alors, au programme du jour, eh bien, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui, puisque nous allons accueillir Christian, qui est le président des Radios du Cœur, je suis fatiguée moi, des Restos du Cœur 49. Voilà, il a un gros planning et il a pris le temps de venir nous voir. Merci beaucoup Christian.
C'est avec plaisir.
Voilà, on commencera tout d'abord par l'éditorial de Philippe qui va nous parler de l'impunité des multinationales. Et puis ensuite, comme d'habitude, on va passer en revue l'actualité nationale et internationale. Et nous finirons la demi-heure par l'agenda culturel et militant. Alors dis-nous tout Philippe.
Le 24 avril 2014, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh cause la mort de 1138 ouvrières du textile et fait plus de 2000 blessés. Dans les décombres, de nombreuses étiquettes de grandes marques sont retrouvées. Les répercussions de la catastrophe provoquent enfin une prise de conscience collective après d'autres drames comme la pollution chimique de Bhopal en Inde en 84 ou le scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire en 2006.
Quelle leçon à retenir de cette tragédie ?
On constate que de nombreux produits de notre quotidien sont fabriqués dans des environnements dégradés et nuisibles aux employés, que les victimes se retrouvent démunies face à des employeurs peu scrupuleux. Des mesures auraient pu être prises pour prévenir ces désastres, mais les multinationales bénéficient d'une impunité juridique.
Et comment s'est mise en place cette mobilisation citoyenne ?
Celle-ci a permis de soutenir des campagnes, notamment celle que nous avions lancée en 2014, « Faites pas l'autruche » avec l'appui de Lambert Wilson. D'autres acteurs de la société civile comme Sherpa, le CCFD et le collectif éthique sur l'étiquette ont œuvré à l'adoption d'une loi. Des centaines de citoyens ont écrit à leurs députés et sénateurs. Alors que la bataille législative fait rage, c'est finalement le 21 février 2017 que la persévérance porte ses fruits. La loi sur le devoir de vigilance est adoptée.
Ça, c'est génial. Et quelles avancées alors comporte cette loi ?
C'est indéniablement un texte pionnier au niveau mondial. En effet, les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre françaises pourront enfin être reconnues légalement responsables des dommages humains et environnementaux que peuvent provoquer leurs activités, ainsi que celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs à l'étranger, et auront à en répondre devant un juge le cas échéant. Les entreprises multinationales ont l'obligation de mettre en place des mesures pour prévenir, atténuer, réparer les atteintes aux droits humains et à l'environnement engendrées par leurs activités ou celles de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur. Ce devoir de vigilance s'impose aux entreprises établies en France ayant au moins 5 000 salariés ou 10 000 dans le monde et concerne tous les secteurs d'activité ainsi que toutes les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement.
Et quelle a été la première assignation en justice ?
Le 23 octobre 2019, les Amis de la Terre, l'association Survie et 4 ONG ougandaises ont lancé la toute première action en justice contre Total concernant les activités de ses filiales et sous-traitants en Ouganda. L'entreprise française, via sa filiale locale, est aujourd'hui l'opérateur principal d'un projet pharaonique qui vise à extraire environ 200 000 barils de pétrole par jour, et cela au cœur d'un parc naturel. 100 000 habitants risquent d'être expropriés.
Et est-ce que ça s'est globalement amélioré sur place alors ?
Des associations se battent contre ce projet démentiel avec un courage inouï, mais 9 militants ont été arrêtés vendredi à Kampala. Selon un article scientifique qui vient de paraître, Total avait connaissance des conséquences néfastes de ses activités pour le climat dès 71. Mais le géant français de l'énergie a entretenu le doute à la fin des années 80 et a ensuite cherché à saboter les efforts déployés par les politiques pour limiter le recours à ces énergies fossiles. En mars dernier, Oxfam a dévoilé un classement des entreprises françaises du CAC 40 les plus polluantes en fonction de leur empreinte carbone. Si on laisse les banques de côté, c'est bien le géant de l'énergie Total qui reste l'entreprise française la plus polluante, avec Total, le pétrolier américain Exxon et la compagnie néerlandaise Shell font partie du classement des 20 entreprises d'énergie fossile les plus polluantes, responsables de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis 50 ans.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio Gézan 101.5 FM et nous accueillons maintenant Christian des Restos du Cœur 49. Merci d'être venu. Comment vas-tu?
Pour l'instant, tout va bien.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Donc les Restos du Cœur, je crois que tout le monde connaît cette magnifique association. On va parler plus spécifiquement des Restos du Cœur 49, avec peut-être des nouveautés. Tu me parlais d'une ouverture pour les familles, etc. De quoi veux-tu parler en premier?
Alors, la première chose dont je voudrais parler, c'est que représentent les Restaurants du Cœur 49. Parce que de toute façon, je ne peux parler que du département.
Oui, bien sûr.
Et bien, c'est l'équivalent d'une PME de près de 260 personnes. Une fois que nous avons valorisé le bénévolat et d'accord. les salariés.
Ah oui.
Donc ça permet de bien mesurer le poids économique aussi des Restaurants du Cœur. Ouais. Et les Restaurants du Cœur, si on prend sur les 12 derniers mois, ils ont distribué l'équivalent de 1 700 000 repas dans le département.
C'est
incroyable. Ouais.
Et vous avez combien de centres dans le département?
Alors, dans le département, nous avons 27 centres d'activité. Mm-hmm. C'est un centre qui distribue de l'aide alimentaire. À côté de ça, nous avons effectivement une grande première en France qui s'appelle la Maison du Cœur, hein, sur laquelle j'aimerais revenir. Également deux entrepôts et une chose qui est très oubliée, c'est nos chantiers d'insertion. Nous avons trois chantiers d'insertion avec des salariés de droit commun, hein, avec des CDD de droit commun et des personnes qui viennent en insertion pour des contrats qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Et je peux vous dire, j'étais extrêmement ravi cet après-midi. J'étais au chantier qui s'appelle le SIAT, qui est entre Angers et Trélazé. Et là, j'ai un salarié en insertion qui est venu me voir en me disant, « Président, je suis content parce que je m'en vais. » Je dis, « Moi aussi, mais alors comment t'appelles-tu ?» Alors il me dit, voilà, il me donne son prénom. Je dis, « Ah oui, t'es la personne pour laquelle j'ai signé un solde de tout compte hier parce que t'as trouvé un CDDI à l'extérieur. Donc bravo. » Donc l'insertion, c'est fait pour ça.
Oui, bien sûr.
C'est un tremplin, en fait.
Alors, il me disait, finalement, on m'emploie en durée indéterminée, sans période d'essai, alors que j'ai pas de qualification, j'ai pas de diplôme. Là, je dis, peut-être, tu n'as pas de diplôme reconnu, mais t'es venu chez nous et t'as eu une montée en compétences qui est reconnue. Et ça suffit pour trouver un emploi.
Exactement.
Ah oui, ça, c'est
une belle histoire.
Très bien. Et alors, autrement, les activités sur Angers même, est-ce que vous pouvez nous en parler, entre autres, votre activité auprès des familles que vous comptez mettre en place?
Alors, la ville d'Angers, Intramuros, on a trois centres d'activité. Donc, Couffon, qui est plutôt orienté sur les bébés.
Oui.
Le centre du Mail, qui est rue du Mail, pas très loin de la mairie.
Et Couffon, c'est où?
C'est auprès du stade de la Baumette.
D'accord.
Donc, installé dans les conditions spartiates, mais ça, on s'en occupe. Un deuxième centre qui est rue du Mail, c'est-à-dire à proximité de la mairie, hein, plutôt en bas de la rue du Mail, près de la rue Thiers, et également boulevard du Doyenné. Ça, ce sont trois centres d'activité, de surcroît. Bon, il y a l'entrepôt, boulevard du Doyenné aussi, l'entrepôt départemental, et également la Maison du Cœur. C'est une Maison du Cœur qui était vraiment une grande première pour les Restaurants du Cœur en France. On a commencé à faire des petits. Donc, c'est un lieu... dans lequel on essaye de faire en sorte que les parents trouvent leur place de parents et les enfants leur place d'enfants. On essaie de reconstituer un cadre familial pour des gens qui sont en grande précarité en matière de logement en particulier. Donc on y accueille de façon totalement inconditionnelle et sur des bases entièrement déclaratives des familles, monoparentales ou pas, avec un enfant dont le plus jeune n'excède pas 6 ans.
D'accord.
Et là, bien, il suffit de se présenter à la porte. Moi, si je me présente, ils vont me reconnaître, mais si je me dis que j'appelle Jean-François Dupont de Nemours et puis que j'ai un gamin que je tiens par la main et je dis qu'il a moins de 6 ans, je serai accueilli.
D'accord.
On ne demande aucun justificatif. Ouais. Et à partir de là, on offre aux gens la possibilité de laver leur linge, de faire sécher leur linge, de prendre une douche, de laver les enfants. de recharger leurs appareils mobiles, puisqu'il y a quand même, ils ont quand même des moyens de communication. Ils ont des postes qui leur donnent un accès libre au web. Il y a une salle de repos pour les enfants, des aires de jeu à l'intérieur pour les enfants. Et actuellement, on en construit une à l'extérieur pour les beaux jours. Et la particularité est la suivante, c'est que les personnes accueillies, avec les bénévoles, composent les menus pour le repas du midi. D'accord. Ensuite, préparent les repas en commun.
Très bien, ça.
Et ensuite, les repas sont partagés. Les enfants, les personnes accueillies et les bénévoles. La seule contrepartie qui est demandée, qui est très faible, c'est de demander aux personnes accueillies qu'elles participent aux tâches ménagères. Parce qu'on les met dans des conditions de vie en maison. Et ça ne pose aucune difficulté pour eux. Mettre la table, desservir, balayer, etc.
Et cet accueil de jour est très récent. Je crois que tu parlais de mars de cette année, c'est
il
ça
a ouvert le 4 mars cette année.
D'accord.
Il a été visité par plusieurs autres départements. Et je sais qu'il y a un petit enfant qui va naître dans le département de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire un espèce de clone de ce qu'on a fait. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on a ouvert le 4 mars. Moi, je me suis fait communiquer les taux de fréquentation, quand même, pour savoir. On a ouvert ça, mais est-ce que ça sert à quelque chose, quoi. Eh bien, je peux vous dire qu'en 6 mois, on a reçu 437 personnes dans ce centre.
Ah oui, quand même.
D'accord. Dont 169 enfants. Donc, si vous êtes bénévole, vous voyez, vous avez suffisamment de monde. Et depuis, comment dirais-je, 15 jours, on a commencé à ouvrir le dimanche. Et on m'a dit, mais tu ne trouveras pas de bénévole pour le dimanche. Il a suffi de dire, et puis on a trouvé des gens. On expérimente sur 4 semaines, on verra ce que ça donne.
Et vous avez des problèmes un petit peu de bénévoles
de recrutement,
Je le dis très doucement, mais en fait, je devrais dire très fort, on a un problème de recrutement, comme beaucoup d'associations. On cherche des bénévoles, de base, comme moi j'ai fait quand je suis arrivé en avril 2018, j'ai commencé par fin d'année. Mais on a besoin de conducteurs de poids lourds, on a besoin de jardiniers, parce qu'on exploite des jardins. Les bénévoles exploitent des jardins. 88 hectares exploités par des bénévoles, ça nous produit 90 tonnes de légumes par an. Qu'on réinjecte dans nos centres pour les distribuer aux personnes accueillies.
D'accord.
Donc on cherche des jardiniers, on cherche des bénévoles qui prennent des responsabilités aussi. Mais oui, bien sûr.
La réinsertion, ça se fait en partie sur l'agriculture,
Les jardins dont je parlais, c'est des jardins de proximité, mais l'insertion se fait effectivement sur plusieurs volets. Effectivement, il y a une partie maraîchère. Il y a aussi une partie qu'on appelle le petit bâti, des petits ouvrages très simples. Il y a aussi l'entretien d'espaces verts. Et on fait des expérimentations en permaculture, mais sur des niveaux assez élevés. Et on essaye de coller, c'est-à-dire selon l'endroit où se situe le chantier, on essaye de coller à l'environnement. Par exemple, on a un chantier qui est à proximité de Saumur.
À la Mambrole, je crois, j'ai vu. Non. Longue-Dé, non.
À côté de Saumur, non.
C'est Saint-Lambert.
Saint-Lambert des Levées.
C'est ça.
Ah, Saint-Lambert des
Levées. Eh bien là, pour coller un peu à l'environnement, on a commencé à faire un peu de culture de la vigne pour apprendre, c'est pas pour faire du vin, bien entendu, mais c'est à apprendre aux gens à tailler.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on doit donner comme soin à la vigne.
D'accord.
À quel moment on taille, comment on taille, etc.
Le champigny du cœur.
C'est pas prévu. Puis c'est pas vraiment des terres pour ça.
Et s'il y a des bénévoles qui veulent venir vers votre association, comment?
Ah, c'est facile. Surtout qu'ils m'appellent pas. Mais je vais donner un numéro de téléphone. Donc, c'est ma petite Régine qui répondra. Donc, j'ai le 02 41 25 40 59. Mais il y a des voies qui sont plus pertinentes à mon sens. On a un site internet dans le département.
D'accord.
Et il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche Resto du Cœur 49, et puis la personne y arrivera, donc elle peut candidater, s'informer. Et on peut aussi recruter via le site national, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il suffit de taper restoducœur.org, et là, ça arrive sur le site national. Dès qu'il y a une candidature qui se fait au niveau national, elle revient chez nous.
Et est-ce que vous arrivez à trouver de nouveaux bénévoles parmi les jeunes également? Parce que c'est souvent difficile d'assurer la relève.
Alors moi, on développe énormément les contacts avec les universités, les écoles, lycées, collèges, etc. Parce que ce que je prodigue comme message, c'est le creuset des bénévoles de demain. Simplement, nous, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on accepte aussi que ces bénévoles-là viennent moins longtemps. On le reverra peut-être dans plusieurs.
C'est ce que vous appelez les nouveaux bénévoles, quoi.
C'est tout à fait ça.
Tout à fait. C'est une forme d'engagement différente, quoi.
Oui, ce ne sera plus de l'engagement au long cours.
Oui, tout à fait. Nous, on le vérifie aussi. C'est la même chose dans le milieu étudiant.
Il nous reste une trentaine de secondes. Moi, je suis une ancienne veilleuse du chemin de traverse. Comment ça va là-bas?
Un chemin de traverse, comment dire? Ben, ça va pas bien pour les gens qui y sont, c'est évident. On est reparti sur des effectifs élevés, parce qu'on est reparti sur la charge nominale de 61 personnes.
D'accord.
Et là, c'est pareil, je cherche des bénévoles. Venez
pour
nous
les
aider
petits déjeuners.
Pour les petits déjeuners, venez nous aider pour les repas du soir.
Ouais.
Vous serez bien accueillis.
Donc vous continuez les petits déjeuners au 115 aussi. D'accord.
Petit déjeuner, repas du soir, on n'arrête pas. On ne lâche pas l'affaire.
Merci beaucoup.
Merci
Christian.
Merci.
On se retrouve après une pause musicale. Vous venez d'entendre un extrait du Canto General, interprété par les choristes du Canto et notre amie Gabriella Barenichea, qu'on embrasse très fort. C'est entre 1938 et 1950 que l'auteur chilien Pablo Neruda a rédigé des poèmes et des témoignages qu'il a réunis sous le titre de Canto General. C'est une fresque sur l'histoire et les destinées des peuples d'Amérique latine. En 1970, le compositeur grec Mikis Theodorakis, réfugié politique ayant combattu la dictature des colonels, va mettre en musique plusieurs de ses poèmes. Cette œuvre unique par sa forme d'écriture laisse à la fois échapper un cri de révolte et un hymne à la paix.
deux magnifiques défenseurs de la liberté.
Et il est 19h20 et c'est le moment des actualités, Sophie.
Oui, à Londres, début juin 2021, s'est ouvert un procès extraordinaire afin de juger la République populaire de Chine pour génocide et crimes contre l'humanité envers les Ouïghours, les Kazakhs et autres populations musulmanes en Chine. Un groupe d'avocats et experts des droits humains qui enquête sur le traitement inhumain infligé à la minorité musulmane Ouïghour a entamé une série d'auditions de témoins à Londres. Les membres de ce tribunal ouïghour, ainsi nommé malgré l'absence de toute autorité judiciaire, ont recueilli des témoignages sur les stérilisations forcées, les tortures, les enlèvements, les viols et le travail forcé dans les camps mis en place dans la région de Xinjiang. Le jugement est attendu pour décembre. Cette instance devra qualifier les faits et statuer pour déterminer si un crime contre l'humanité, voire un génocide, a été commis et est en cours dans les camps chinois, mais également à l'étranger.
Pendant ce temps-là, au Soudan, Philippe ?
Depuis la tentative de putsch manquée du 21 septembre, les généraux ont multiplié les attaques frontales contre les forces pour la liberté et le changement, une coalition de partis civils. Depuis 5 jours, les forces armées détiennent le Premier ministre, emprisonné après avoir refusé de soutenir ce coup de force. La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeaute la transition démocratique ont également été arrêtés. Les soldats tirent à balles réelles sur les protestataires réunis devant les quartiers généraux de l'armée dans le centre de Khartoum.
Et que se passe-t-il en Libye, Sophie ?
En octobre 2021, l'ONU dénonce fermement la souffrance des migrants qui passent par la Libye, tout le monde le sait. Elle veut une enquête indépendante sur les allégations de meurtre. Ainsi, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme sur le traitement des migrants qui sont renvoyés de force dans des centres de détention en Libye, où ils sont la cible de violences et de mauvais traitements. Les services de la Haut Commissariat Michel Bachelet veulent l'ouverture rapide d'enquêtes approfondies, impartiales et indépendante sur les allégations d'usage inutile et disproportionné de la force, y compris les allégations d'assassinat par les forces de sécurité, et les groupes armés affiliés.
Dont des mercenaires. Je crois qu'il y a un accord qui a été conclu à Genève.
Oui, en effet, le 8 octobre, donc c'est très récent, la commission militaire mixte libyenne a signé un accord sur un plan d'action global pour le processus de retrait des mercenaires, des combattants étrangers et des forces étrangères du territoire libyen.
Philippe, tu voulais rendre hommage à Ebru Timkit. Alors, qui est-elle ?
Oui, j'aimerais rendre hommage à cette grande avocate turque qui, derrière les barreaux d'une prison d'Istanbul, est morte le 27 août, au 238e jour d'une grève de la faim. Ebru Timkit est morte pour défendre son droit à un procès équitable. Après avoir été condamnée à 13 ans avec 18 autre avocat comme elle, détenu sous l'accusation de terrorisme, juste pour avoir défendu d'autres personnes accusées du même crime. Elle est morte comme Ibrahim et Eline et Mustafa du groupe Yorum, mort après 300 jours de jeûne pour lutter contre la même accusation. Elle est morte en combattant avec son corps jusqu'aux extrêmes conséquences. Une bataille qu'il n'est plus possible de mener en Turquie avec un mot, un vote, une manifestation. Elle est morte comme les héros le font, sacrifiant sa vie pour les droits de tous. Il n'y a qu'une seule façon de célébrer la mémoire de cette grande dame, ne pas se taire.
Oui. Et toi, Sophie, tu nous emmènes au Yémen avec un conflit qui dure depuis 7 ans maintenant. Quelles sont les conséquences sur les Yéménites ?
Depuis 2014 et le début de cette guerre civile, des milliers de Yéménites ont disparu au nord, arrêtés, kidnappés ou assassinés par les rebelles sans aucun jugement ni preuve tangible de leur culpabilité. C'est pour tenter de retrouver leurs proches disparus que des femmes yéménites créent en 2016 une association de mères et de sœurs qui luttent sans relâche pour les retrouver. Cette association estime à 7401 les personnes disparues et pourtant des négociations sont en cours, se mènent et quelques libérations ont pu avoir lieu en échange de prisonniers rebelles. Mais pour autant, aucune femme ne fait partie de demandes de libération, malgré un total de 1181 arrêtés et captives des rebelles. Le 29 août 2021, cette association a organisé un rassemblement de protestation devant le conseil local et le ministère des droits de l'homme à Aden, pour réitérer ses appels à sauver les personnes enlevées dans le pays.
Et moi, de mon côté, je voulais vous parler de la liberté d'expression. Tout d'abord parce que Amnesty, dans son dernier rapport, révèle que les attaques contre la liberté d'expression ont été sans précédent pendant la pandémie. Ces attaques ont des répercussions dangereuses sur la crise de santé publique. Certains gouvernements invoquent de nouvelles lois pour bâillonner le journalisme indépendant. Cela leur permet d'attaquer les personnes critiquant leur réponse sur la pandémie, mais également les personnes qui tentent simplement d'en savoir plus.
Le rapport vise en particulier la Chine et la Russie, je crois.
Eh oui, toujours. Tout à fait. En Chine, des professionnels de santé, des journalistes professionnels et des citoyens ont été pris pour cible alors qu'ils avaient tenté de lancer l'alerte dès décembre 2019. Notre rapport expose en particulier le cas inquiétant de la journaliste citoyenne Zhang Zan, condamnée à 4 ans de prison pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et à rendre compte de l'épidémie. Alors de son côté, la Russie a étendu une législation existante prévoyant des sanctions pénales pour diffusion publique de fausses informations en connaissance de cause dans une situation d'urgence. Mais on sait que ces mesures vont rester en vigueur au-delà de la pandémie.
Mais on a reçu une très bonne nouvelle quand même. Des journalistes ont été mis à l'honneur cette année pour le prix Nobel de la paix.
Et oui, c'est exact. Le prix Nobel de la paix 2021 a été attribué à deux journalistes, le russe Dimitri Muratov et la philippine Maria Ressa. Il s'agit du premier prix Nobel de la paix qui récompense la liberté d'information en tant que telle. Alors Maria Ressa a cofondé, c'est bien ça, la plateforme numérique de journalisme d'investigation qui s'appelle Rappler en 2012. Et plus particulièrement, elle a braqué les projecteurs sur le président philippin Duterte avec sa campagne anti-drogue controversée et meurtrière. Quant à Dimitri Muratov, c'est l'un des cofondateurs et rédacteurs en chef du journal Novaya Gazeta, l'une des rares publications encore indépendantes en Russie. Ce tri hebdomadaire a notamment mis en lumière la corruption, les violences policières, les arrestations légales et la fraude électorale en Russie. Mais ils ont déjà payé le prix fort puisque 6 de ces journalistes ont perdu la vie, dont Anna Politkovskaya. Et comme l'a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, les deux lauréats sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus hostiles. Et on termine cette séquence actualité, Sophie, par un appel à soutien pour un ami angevin.
Cette année, non, je crois que c'est moi.
Pardon Philippe.
Cette année, les services de police ont jugé nécessaire d'auditionner 2 fois Marc-André, militant angevin bien connu. Une première fois pour organisation de manifestations non autorisées le 29 janvier et une seconde fois pour entrave à la circulation le 17 mars. Si la première procédure a été classée sans suite par le parquet, la seconde s'est soldée par une ordonnance pénale qui le condamne à verser une amende de 350 euros. Il a donc fait opposition et est cité à comparaître au tribunal le jeudi 9 décembre. Cela fait plus d'un an que nous tirons la sonnette d'alarme. Le droit de manifester est menacé en France. Et la mobilisation paie. Le 20 mai, Frédéric Vuillaume, soutenu par Amnesty, alors qu'il était poursuivi pour délit d'attroupement, a été finalement relaxé par le tribunal de Dijon. Marc a besoin de notre soutien. Manifestant, pas criminel.
Mais il est déjà 19h28 et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Une rencontre Cinédoc aux 400 coups le mardi 2 novembre 21 à 20h dans le cadre de la 14e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité autour du documentaire Et si c'était vous. Le film sera suivi d'un débat animé par la DMD 49.
Le 5 novembre, un magnifique concert aux Trois Mâts réunissant une quinzaine de musiciens, choristes et danseurs participe le 15 septembre à l'atelier Voyage musical animé par Titi Robin. Sera par ailleurs le 10 novembre à 20h30 au théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy. Il y proposera un concert intitulé « Retour aux sources gitanes ».
Et le dimanche 14 novembre, c'est France Terre d'Asile qui nous propose un concert à la Chapelle des Ursules à 15h30 au programme Le Pianiste Tristan L'Official. L'entrée est gratuite mais sur inscription.
Au 400 coups, le lundi 15 novembre à 20h, pas en mon nom de Daniel Kupferstein. Dans ce documentaire, la parole est donnée aux personnes d'origine juive qui refusent de s'enfermer dans une assignation communautaire, tout en craignant le développement de l'antisémitisme.
Merci. Et il est déjà presque 19h30, on a à peine le temps de se dire au revoir. Passez une excellente soirée et n'oubliez pas de nous rendre visite sur Facebook et sur amnesty.angers.